Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce lundi 25 mars et d'autant plus ravi que ce matin, j'ai l'extrême privilège de recevoir le grand comédien Michel Bouquet. Bonjour Michel Bouquet.
Bonjour.
Et
bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Tous les lundis, vous savez, c'est l'actualité des livres qui est au programme du Réveil culturel. Aujourd'hui, pour la première fois, il sera question d'un audiolivre. Michel Bouquet lit Jean de La Fontaine sous la direction artistique d'Ulysse Di Gregorio, également présent avec nous. Le Réveil culturel a été préparé avec la complicité de Corinne Amard et Maël Ray, réalisé par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Claude Niort.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
Michel Bouquet, ça tombe bien, aujourd'hui c'est la fin du 21e printemps des poètes et on va bien fêter ça. Pour vous, Jean de La Fontaine est un poète, un conteur ou c'est l'auteur des fables, un fabuliste?
C'est toute une partie du XVIIe siècle qui est la plus, comment dirais-je, la plus vénérable, la plus extraordinaire pour un homme de culture. C'est le grand siècle. Et c'est un représentant du grand siècle qui est particulièrement familier, agréable, charmant, et qui est en même temps d'une lucidité prodigieuse et d'une aménité totale. C'est sûrement un des plus grands hommes de ce grand siècle.
Alors, vous qui avez interprété sur scène les plus grands poètes, des grands auteurs, hein, Molière aussi, Shakespeare, Ionesco, Pinter, Anouilh, quelle place vous réservez à Jean de La Fontaine?
J'ai le sentiment que La Fontaine est peut-être le père du tout. C'est peut-être le père du tout. C'est un homme apparemment facile d'accès, assez plaisant, très, très charmant. Et par derrière, c'est peut-être l'être le plus profond. C'est peut-être l'être le plus miraculeux, je dirais, moi, personnellement, parmi les écrivains. C'est un des très grands écrivains. Et en même temps, c'est un père. C'est un ancêtre, c'est quelque chose qui nous tient vraiment aux fibres les plus intimes de nous-mêmes.
Pour sa qualité d'écrivain, de poète, ou c'est le côté moraliste que vous gardez de La Fontaine, Michel Bouquet?
Je dirais que c'est l'ensemble de toutes ces qualités, souvent contradictoires les unes avec les autres, et pas pratiqué par de la même manière par les mêmes personnes. C'est quelqu'un qui réunit tout le monde, qui réunit tout le monde dans quelque chose de très français. C'est le miracle de la compréhension du français, de ce qu'est le français. C'est une lucidité extraordinaire et en même temps c'est une compréhension de tous les petits défauts qui accompagnent ses grandes qualités. Mais ces défauts quelquefois prennent le pas d'une façon un peu révoltante à certaines époques et La Fontaine est là pour dire « Oh, attention, attention, modérons-nous, modérons-nous, il en est temps, il en est temps ». Alors c'est en même temps, c'est un prodigieux grand-père, en fait. C'est quelque chose de rare. Il comprend tout, il admet tout, et en même temps, il condamne aussi, quand il est temps. Et c'est un être très simple, et en même temps, d'une complexité incroyable, d'une moralité exemplaire. C'est un être parfait quand même. C'est un être parfait.
Ça fait pas peur, les êtres parfaits?
Ben non. Dans son cas, ça ne fait pas du tout peur. Ça fait rire, ça amuse, ça impressionne, mais ça ne fait pas peur du tout. Non.
Et cet amour pour Jean de La Fontaine, Michel Bouquet, je suppose que ça remonte à loin. Est-ce qu'il faut remonter jusqu'à l'époque où vous étiez à l'école? Comment vous avez découvert les fables de La Fontaine?
Oh, à l'école, j'étais un très mauvais élève. J'étais dans une pension qui était très dure, de 7 à 14 ans. Je n'ai rien appris parce que j'étais toujours au piquet. Et
on a du mal à l'imaginer, mais enfin...
Tout à fait exact. Je n'ai rien appris du tout, mais j'ai partagé quelque chose avec La Fontaine, justement, de me dire que regarder était très important, très important. Je voyais 600 élèves dans la cour de la pension où j'étais... à l'école Fénelon à Vaujours en Seine-et-Oise, je regardais ces gens se battre, ces gens s'insulter, ces gens où s'amuser, rire comme des fous.
Mais pourquoi?
Et j'étais main derrière le dos, tête baissée, ouais, dans le préau, à faire mes heures de piquet.
Mais pourquoi vous les faisiez, ces heures au piquet?
Ben parce que j'étais complètement indifférent.
Vous étiez ailleurs ou vous étiez un rebelle?
Ah, pas rebelle du tout.
Vous étiez juste ailleurs.
Oui. J'étais dans une concentration, en fait, pour bien regarder ce qu'était l'être vivant. Pour bien regarder quel était mon contemporain. Et pour m'inspirer, pas d'un rejet, mais m'inspirer... J'étais dans l'attente d'une compréhension possible.
Et seul, et solitaire.
Oh, mais j'étais pas du tout impressionné par ça. J'étais pas du tout. J'étais fier et content d'être là comme ça. J'étais très, très content. J'étais très content d'être à l'abri. Le fait d'être à l'abri était pour moi essentiel. J'ai passé 7 ans de pension à voir les gens se taper dessus, se molester, se tyranniser, et je me disais, je suis mieux en étant là, tranquille dans mon coin, main derrière le dos, tête baissée.
Et Jean de La Fontaine, vous le découvrez donc plus tard dans votre carrière de comédien?
Quand je l'ai fréquenté, quand je l'ai lu, je l'ai trouvé très, très familier à une attitude qui ressemblait. J'avais emprunté des choses à lui, alors que je ne le connaissais pas. J'avais emprunté des choses à lui pour me tenir quoi? Pour me tenir bien à l'écart et regarder.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Mais vous êtes arrivé à Jean de La Fontaine parce que vous lisez beaucoup, Michel Bouquet, ou c'est par le théâtre et votre travail de comédien que vous avez découvert son œuvre?
C'est-à-dire que mon travail de comédien m'est venu par ces heures de piquet que je faisais. C'est là où j'ai appris mon métier de comédien, qui était de réfléchir à ce que je voyais et de tenir compte que ce que je voyais avait besoin d'une analyse, avait besoin d'être vraiment fréquenté. Tout naturellement, quand j'ai connu La Fontaine, j'ai ressenti un peu la même chose avec ce grand écrivain. Il m'a guidé, il m'a compris, il a apprécié mon attitude, sentiment de bien regarder attentivement.
Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier que vous pratiquez maintenant depuis 75 ans, Michel Bouquet? C'est le métier de comédien. À quel moment vous avez voulu être comédien?
À la sortie de la pension, je me suis trouvé tout seul, Cité Jardin, au Lila. Et c'était la guerre. Mon père partait sur le front ensuite après en captivité. Et je me suis dit, ma mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous protéger. J'avais trois frères et moi, mes trois frères et moi, pour nous protéger. Et tout de suite, toute la difficulté du monde était devant nous. Et comment réagissions-nous par rapport à cette difficulté du monde à laquelle on est habitué, étant jeune, par ces 7 ans de pension? On est vraiment habitué à ça. Et alors, tout naturellement, l'idée de trouver des rôles, de trouver des personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit, dans le même sentiment, et puis leur donner vie, ça m'a paru être...
C'est pour échapper au réel et à la réalité que
non,
vous avez
imaginé. Non, pour mieux regarder la réalité, pour mieux regarder le réel, pour être contemporain, si vous voulez, de toutes les malversations possibles. Avec la guerre, j'ai été servi merveilleusement, et me dire de tenir le coup pendant cette période-là.
Et comment vous avez pris la décision de devenir comédien, de vous inscrire à
ça m'est apparu comme une distraction, comme une chose qui me divertissait complètement, qui me...
Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes inscrit à un cours?
J'ai été chez Escande un jour, qui était sociétaire de la Comédie Française, et très grand doyen, enfin, comme personne. J'avais noté son adresse de rue de Rivoli. Je suis allé un dimanche matin, au lieu d'aller à la messe, je suis allé là, et j'ai monté les cinq, six étages qu'il y avait à monter. J'ai frappé à la porte. Une dame est venue, m'a dit « le maître est en train de faire sa toilette, il va aller à son cours, mais entrez, vous allez le voir, il va arriver très gentiment, etc. » Il m'a dit « mais vous avez appris quelque chose ?» J'ai dit « oui, j'ai appris des poésies de Musset. » Et alors il m'a dit il faut me les dire, et alors j'ai commencé. Du temps que j'étais écolier, je me mis un soir à rêver dans notre chambre solitaire. Devant ma porte vint s'asseoir un étranger vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Son visage était triste et beau, enfin tout le poème. Et il m'a dit « mais c'est très bien, vous avez une très bonne articulation, vous avez une très bonne voix, dites donc, c'est bien, c'est bien. Je vais à mon cours au théâtre Édouard VII, un peu plus loin, on venait avec moi, puis vous allez voir ce que c'est qu'un cours de théâtre. » Et alors je me suis trouvé, il m'a dit « vous me mettez au dernier rang là de l'orchestre et puis vous regardez ». Et puis dans 3 heures, quand le cours va être fini, je vous demanderai de venir. Et alors je me suis mis là, et puis j'ai attendu 3 heures, puis je voyais tous ces gens qui passaient des scènes, qui travaillaient, qui étaient... Et je me disais, mais c'est drôle, ils ne font que ça. Ils ont la chance d'avoir un théâtre, il y a un rideau qui se lève, et puis ils ne font que ça, ils s'amusent entre eux, ils discutent, c'est l'exode, c'est toute cette période terrible, n'est-ce pas? Et puis ils font que ça. Et puis il m'a dit à la fin du cours, il m'a dit, vous allez monter maintenant sur scène, et puis vous allez me dire le poème, vous allez nous dire le poème que vous m'avez dit tout à l'heure. Alors mes genoux se sont mis à trembler, enfin j'étais dans un état épouvantable. On m'a conduit en scène, et puis j'ai commencé. Et puis là, tous les élèves s'en allaient, mettaient leur veste, leur truc, parlaient entre eux, etc. Je me mis un soir à rêver dans notre chambre solitaire. Et alors Escande s'est levé, et il a dit, au lieu de parler entre vous, vous feriez mieux de prendre une leçon. J'ai pleuré, et j'étais dans un état épouvantable, épouvantable. Il m'a dit, il faut reprendre, il faut recommencer. Et puis j'ai dit mon poème en entier, Et il a dit, très bien, ben alors tout le monde s'en va maintenant. Oui. Et maintenant, je vais aller avec vous voir votre mère. On y va. Et puis il a vu ma mère et puis il a dit, écoutez, il faut que ce petit fasse du théâtre. Mais ma mère a dit, je ne sais pas du tout, je ne comprends rien du tout à tout ça, mais son père est en captivité, je ne peux pas prendre cette décision. Il a dit, vous savez, ça va aller très bien, ça va se passer très bien. Faites confiance et son père sera content quand il va rentrer de captivité de voir son fils faire ce métier.
Vous aviez quel âge à l'époque, Michel Bouquet ?
Écoutez, je suis de 25, vous voyez, et j'avais 14 ans, 15 ans.
Et vous n'avez rien oublié ?
Non. Et puis j'ai commencé ce métier merveilleux, et puis vous... ça a rempli ma vie. Et puis j'ai commencé à... Je me suis dit, j'ai eu un sentiment, c'est que quand l'escandé est parti et que ma mère avait accepté que je fasse ce métier... Je me suis dit, maintenant, il faut lire.
C'est à partir de ce moment-là que vous vous mettez à lire, Michel Bouquet.
À lire, à lire, à lire, à lire, à lire, oui. Et puis j'ai lu La Fontaine, et puis j'ai lu Racine, et puis j'ai lu Molière.
Et puis surtout, l'aventure continue. Aujourd'hui, vous jouez toujours, Michel Bouquet ?
Ben oui, je lis toujours.
Mais est-ce que vous êtes toujours sur scène aussi ? Vous jouez ?
Maintenant, c'est fini.
Pourquoi ? Jusqu'à l'année dernière, vous étiez sur scène et tout le monde venait vous voir.
Oui, mais c'est parce que je suis trop fatigué. Je ne peux plus. J'ai 93 ans, bientôt 94. Vraiment, je ne peux plus, quoi.
Sinon, de travailler sur la direction d'Ulysse Di Gregorio, par exemple,
oui.
Pour lire La Fontaine ?
Pour lire La Fontaine et pour relire La Fontaine et toujours le relire parce que on ne lit pas bien la première fois, pas bien la seconde, on lit un peu mieux, moins mal la dixième. C'est très important, chaque auteur, de le lire à fond.
Le laboureur et ses enfants, une des fables que vous avez lues dans ce audio-livre, Michel Bouquet, lit Jean de La Fontaine, on écoute.
Le laboureur et ses enfants.
Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor.
Le laboureur et ses enfants, une des fables lues par Michel Bouquet dans ce audio-livre avec, on vient de l'entendre au piano, Michael Rudy, qui interprète Mozart, sous la direction d'Ulysse Di Gregorio. Bonjour Ulysse Di Gregorio.
Bonjour.
Pourquoi vous avez pensé tout de suite à Michel Bouquet pour lire Jean de La Fontaine?
Écoutez, il y a souvent une évidence quand vous lisez un texte, vous avez comme l'écho d'un comédien qui
apparaît,
qui s'anime comédien, en vous. Ouais. Et voilà, c'est cette évidence qui m'a conduit à le contacter et à engager cette collaboration.
Vous avez une formation de comédien, mais vous êtes metteur en scène au théâtre Ulysse Di Gregorio. Racontez-nous comment vous êtes allé voir Michel Bouquet pour lui proposer ce projet.
Ben souvent, je crois que c'est sous les ailes de la Providence que notre rencontre s'est faite. Et puis il y a eu tout de suite en fait cette affinité, cet amour pour les grands auteurs et pour la poésie d'abord. Et c'est ça ce qui nous a animés. Et à travers cette sélection de fables, c'est un florilège de fables plutôt poétiques que j'ai voulu mettre en avant pour finalement.
Le choix a été fait avec Michel Bouquet?
Non, je l'ai fait seul parce que j'avais mon idée de ce que j'avais envie de prendre chez La Fontaine. La Fontaine disait ma devise c'est la diversité. Il y a tout chez La Fontaine. Vous avez les contes licencieux, vous avez la drôlerie, vous avez quelque chose de beaucoup plus sévère, vous avez vraiment tous les sentiments humains qui sont confondus et c'est ce réservoir évidemment éminemment conséquent qu'on a envie de puiser, mais il faut bien qu'on prenne quelque chose, une couleur en particulier. Et moi, c'est la couleur de la poésie, de l'amitié. C'est de sortir de cet ennui, parce que le fil conducteur, c'est un fil très baudelairien, finalement. Ce sont deux poètes qui se sont inscrits dans leur modernité et qui ont amené leur siècle, au fond, voilà, à jouer un rôle dans la modernité. Baudelaire comme La Fontaine, même si cette comparaison peut être un petit peu surprenante, c'est l'ennui, sortir de l'ennui. Dans Le Voyage, Baudelaire dit « Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile, faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passez sur nos esprits tendus comme une voile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. » C'est l'ennui dont on parle dans Le Laboureur et ses enfants, c'est l'ennui du cerf malade qui va se regarder, c'est l'ennui qui va amener la jeune veuve finalement à reprendre la vie, c'est finalement un message de vie contre l'ennui.
Michel Bouquet, une réaction à ce que vient de dire Ulysse Di Gregorio?
Ah, je suis complètement d'accord. Ah oui, complètement d'accord.
Comment décrire votre voix, Michel Bouquet? Vous l'avez travaillé quand vous étiez...
Non, pas du tout. J'ai travaillé ce que j'ai dans la tête, mais pas ma voix.
Mais quand vous êtes au théâtre, Michel Bouquet, c'est pas la même chose que lorsque vous êtes au cinéma. Il y a un autre effet de voix.
Ah, c'est la même chose, si,
ah
si.
Bon
ah, c'est la même chose. Ah oui, le cinéma est aussi, comment dirais-je, aussi, enfin, autant à percer les secrets. C'est le privilège du cinéma, d'ailleurs, de donner l'occasion de pouvoir aller au plus profond du secret de quelqu'un, ou d'une situation, ou de d'une époque.
Et vous diriez pas la même chose pour le théâtre?
C'est la même chose au théâtre, mais c'est pour alors des perspectives plus grandioses, plus... Le théâtre, c'est quelque chose de tellement beau que... C'est quelque chose d'unique, le théâtre. C'est... Le texte, c'est quelque chose de...
Par exemple, quand vous enregistrez Jean de La Fontaine, vous faites du théâtre, Michel Bouquet, dans votre lecture?
Non, je fais plutôt une intimité. Je fais plutôt quelque chose... de secret, de...
Et pourtant, vous le faites vivre avec votre voix, vos intonations, le ton que vous donnez à chaque passage dramatique.
Oui, c'est un peu du même ordre que le théâtre, mais c'est, si vous voulez, c'est plus intime. C'est plus personnel, c'est plus secret.
Et enfin, pour terminer, Michel Bouquet, vous allez continuer à lire Jean de La Fontaine ou Baudelaire ou d'autres auteurs que vous aimez?
Ah oui, je vais continuer dans la mesure du possible. Je vais continuer, oui. Oui, parce que là, c'est les forces physiques qui me manquent pour, vous savez, être dans la rue et de se dire, je rentre dans un théâtre et je vais travailler. C'est un effort de... Les forces qui sont dépensées là sont inouïes, et quand on arrive à mon âge, c'est impossible de pratiquer ce sport-là tous les jours. C'est impossible. Alors on est obligé de dire non.
Et donc, à la place, vous préférez être dans l'intimité d'un studio avec Ulysse Di Gregorio pour enregistrer des textes.
Ben oui, là, je peux avoir un ennui quelconque, une fatigue, ça ne sera pas capitalisé, ça ne sera pas compté. On recommence demain, et puis.
Merci, Michel Bouquet, d'être venu ce matin. En tout cas, vous êtes en excellente forme. Ça a été, pour moi, un privilège de vous avoir. Merci aussi, Ulysse Di Gregorio.
Merci.
Michel Bouquet lit Jean de La Fontaine. Ça vient de sortir. C'est un audio livre chez Audiolib. Ben voilà, j'ai tout dit. Bonne matinée.